Bonjour à toutes et à tous. Soyez les très bienvenus au salon de lecture Jacques Kerschach du musée du Quai Branly Jacques Chirac pour cette présentation tout à fait exceptionnelle. Je m'appelle Olivier Boisson, je suis directeur des publics et avec Charlotte Fesneau, responsable du service de la médiation, nous avons proposé, à l'occasion tout à fait unique de la venue en France de Monsieur Shikuyu Uematsu, merci beaucoup à lui, cette présentation de l'art du bambou. Vous le savez, en ce moment, l'exposition Fendre-l'air, art du bambou au Japon, est présentée au musée. Et dans cette exposition se trouve, parmi des œuvres très remarquables, une œuvre très remarquable aussi de Monsieur Uematsu, qui a été commandée par le musée pour cette exposition. Et exposition dont le commissaire est Stéphane Martin, le président du musée, que je salue et qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je signale aussi que, compte tenu du caractère très exceptionnel et unique de cette présentation, une captation audiovisuelle est prévue. Pour cette raison, si certaines personnes parmi vous souhaitent ne pas être dans cette captation audiovisuelle, signalez-vous en levant la main et le caméraman fera les cadrages en conséquence. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre fidélité au musée, pour votre intérêt à sa programmation. Je remercie à nouveau très sincèrement, car c'est un grand honneur, Monsieur Shikuyu Uematsu, pour sa venue jusqu'en France, pour sa présence avec nous ce matin. Je vous souhaite une très bonne présentation qui sera bien sûr organisée avec un interprétariat consécutif depuis le japonais. Merci beaucoup.
Donc l'atelier se fera en 7 parties. On vous montrera quelques œuvres. D'abord le panier, ensuite l'éventail et divers œuvres en bambou. Ensuite les instruments l'étui pardon en bambou qui a été utilisé par le grand maître de Teirikyu, Sennorikyu. Il va expliquer ensuite en 5e partie la construction des œuvres, comment il conçoit les lignes de ses œuvres, comment il ajoute la poésie. Et ensuite, la présentation, 6e, 7e partie, c'est la présentation des outils et processus de fabrication. Et en dernier place, en dernier lieu, la démonstration. Donc, en premier lieu, je vous montre cette œuvre qui est utilisée dans le rituel et dans les temples bouddhistes. Donc la reine. Donc la raison pour laquelle je vous montre cette œuvre en premier lieu, c'est que cette œuvre est utilisée traditionnellement dans les rituels pour fêter, par exemple, la rénovation, la réfection d'un temple, ou quand ils accueillent un nouveau statue de Bouddha, ils présentent une offrande dans ce genre de panier. Donc c'est une œuvre qui présage la bonne fortune, et je voulais présenter cette œuvre pour fêter un peu l'inauguration, le début de cette exposition Fond dans l'air. Donc c'est un récipient qui est conservé dans le Chozonin Todaiji. C'est daté du 8e siècle. Donc on a encore à peu près 500 exemplaires de ce récipient bien conservé au Japon. Donc c'est un récipient qui a été utilisé dans la cérémonie des obsèques de la mère de l'empereur Shomu et aussi de son obsèque lui-même. Et c'est une certitude historique puisque ce récipient est daté. Ensuite, en 15e siècle, on voit apparaître ce genre de récipient qui est un peu plus proche de ce que je vous ai montré au début. Donc c'est aussi un récipient qu'on utilise dans la cérémonie de célébration d'accueil de nouveau Bouddha ou de réfection de temple. Et au début, on utilisait des vrais pétales de fleurs, des pétales de fleurs de lotus, de chrysanthème ou des feuilles qu'on appelle shikimi. À partir du 8e siècle, ces pétales sont remplacés par des pétales en papier que je tiens dans ma main aussi. Donc c'était pour célébrer. On éparpillait donc ces pétales de papier dans les temples. Donc on lisait le mantra en même temps qu'on éparpillait ces pétales. Et quand il s'agissait de construction d'un temple ou d'une reconstruction, on éparpillait ces pétales de fleurs ou de papier du toit de ce temple. Cette cérémonie est toujours conservée puisque cette année à Kofukuji, dans le temple Kofukuji à Nara, on a célébré la réfection du bâtiment principal du temple et à ce moment-là, on a éparpillé donc ces feuilles de ces pétales de papier à partir de la pagode qui se trouvait à côté. Donc, au début, lorsque le bouddhisme venait d'être introduit au Japon, on utilisait encore les vrais pétales de lotus. Donc Avant que le bouddhisme soit introduit au Japon, dans le sud de l'Inde, dans le Sri Lanka d'aujourd'hui, on a découvert cette estampe qui date du 5e siècle. Donc on voit bien les dames qui tiennent ces offrandes dans lesquelles il y a des pétales de fleurs donc pour célébrer quelque chose. Donc c'était à l'avènement du bouddhisme même au Sri Lanka, c'était la scène de bonheur où on voyait des pétales de fleurs partout. Un autre exemple de cette cérémonie de célébration, c'était en 1980, lorsqu'on a fait la réfection d'un bâtiment qui abritait le grand Bouddha. C'était les travaux de réfection le plus important dans l'histoire récente du Japon. Donc c'est ce récipient toujours qui a servi pour cette célébration, qui est conservé dans le temple Shosoin. On se demande pourquoi ils ont fait à partir de bambou, pourquoi ils ont utilisé le bambou comme matière première. Donc il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est d'abord que le bambou est une matière première très malléable. On peut le détailler en très fines lamelles, en très fines tiges, et on peut désépaissir comme on veut. Et il est léger à travailler et c'est ça, ses caractéristiques assez facile pour les artisans. Et la deuxième raison, c'est que depuis l'ancienne histoire, dans l'ancienne civilisation, on considère que le bambou est une matière où on accueille l'âme de Dieu. Donc c'est pour communiquer avec Dieu. Et dans toutes les anthropologues ont démontré que le bambou est utilisé dans ce but aussi. Donc il y a ces deux raisons qu'on a utilisé le bambou pour ces cérémonies d'offrande. Donc, le temple Shosoin ne conservait qu'un exemple original. Il m'a donc passé commande de 10 exemplaires de reproduction pour servir à des cérémonies de célébration. Bon, c'était en 1988. Et ça, c'est le prototype que j'ai réalisé.
これのこの文様、このデザイン、これは蓮の 花の文様なんです。
Donc, le motif de base, en fait, c'est une fleur de lotus. Donc voilà pour cette cérémonie de célébration.
の特性を一番表しているのはこのうちわだと思うんです。
Je pense que les éventails représentent le mieux les caractéristiques de bambou.
で、これが日本の四国の丸亀で作っている丸亀うちわ。
Donc cet éventail est produit dans la région de Shikoku, dans la ville de Marugame, donc on appelle l'éventail de Marugame.
で、これは東京の隣の県の千葉県で作っている房州うちわ。この竹はこの美術館のとこにいっぱい生えている竹と同じだと思います。
Et celui-ci est fabriqué à côté de Tokyo dans le département de Chiba. Et c'est fait avec une espèce de bambou qui pousse même, j'ai vu à côté de ce musée. C'est les mêmes espèces.
うちわが竹の特性を一番特性を生かして作られているかといいますと、容易に細かくまっすぐ裂けることができる。そして直線でしなる軽いライト、そして一番、まあこれも大切なことですけど、テクスチャー、この肌触りがとてもサラッとしてて、そして風の空気と溶け合う、もうこれこそがもう竹を 100% 生かしたとっても素敵な日本人が作り出した美しい、美しくもあるし便利でもあるし。
Je dis que l'éventail est un objet qui exploite au mieux les caractéristiques de bambou, puisqu'ils sont facilement détaillables, enfin on peut détailler très facilement en fines tiges, et il est très linéaire, c'est esthétiquement très joli à voir, il est très souple et léger, et la texture est très agréable à toucher.Et enfin, il se marie bien avec l'air, il se fond dans l'air, il fusionne avec l'air. Donc je dirais que c'est un objet qui exploite à 100% les caractéristiques de bambou. Donc, je vais présenter la matière première, le bambou.Donc c'est une œuvre à moi que j'ai réalisée avec une espèce de bambou qui s'appelle susudake. Donc j'ai voulu capter le vent, j'ai voulu mettre sur ce récipient le vent.Donc ça, c'est un bois de Suzutake. Et c'est dans une montagne qui se trouve près de chez moi, dans le département de Kanagawa. Et pourquoi d'ailleurs on appelle Suzutake, cette espèce de bambou ? Il y a plusieurs explications possibles à cela.
Mmh.
Mais celle que je préfère, c'est... En fait, il y a des feuilles au bout de ces tiges. Lorsqu'on utilise ça dans les temples, en fait, on assemble quelques tiges comme ceci, avec les feuilles au bout, et on le secoue un peu pour purifier l'air. Et ça fait un son de feuilles qui est très agréable à écouter, et comme des cloches d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on appelle Suzu-dake, parce que Suzu, la cloche, c'est Suzu en japonais. Ce n'est que quelques années plus tard que les métaux parviennent de continent asiatique au Japon. Donc les cloches sont devenues des cloches en métal à ce moment-là. Mais on se rappelle toujours de l'origine de ces outils, en fait, qui a servi aussi à implorer Dieu. Donc on a décidé d'appeler l'espèce à partir de laquelle on fabriquait ceci, Suzu-dake, pour rappeler que c'était en fait une cloche conservée comme cloche pour appeler le dieu. Donc le son de feuilles qui se touche lorsqu'on secoue ces tiges, l'onomatopée en japonais, c'est sasa. Donc le sasa ensuite est devenu un terme pour désigner les fines tiges de bambou avec les feuilles au bout. Ceci est un bambou take, et les fines tiges sont appelées sasa, qui a pour origine cette onomatopée sasasa. Mais ce son de frottement de feuilles de bambou est tellement... on a tellement d'attache pour ce son de frottement de feuilles de bambou que depuis l'ancien temps au Japon, il y a beaucoup de poètes qui ont écrit donc sur le thème de ce son, aussi dans les recueils de poètes de poésie de 10 000 feuilles au Japon, qui date de l'époque très ancienne. Lorsqu'on récolte les tiges de bambou, on le sèche d'abord à l'air libre. Donc on fait le dégraissage tout d'abord dans l'eau bouillante, et aussitôt fini le dégraissage, on le met dans l'eau glacée.
Donc on fait le dégraissage
Ensuite, on fait sécher au soleil grâce aux rayons ultraviolets. Pendant 10 jours, on obtient au bout de ce temps ces tiges qui est très bien malléable, très, très jolie aussi. Donc ça devient une matière imputrescible pendant 100 ans ou même 200 ans. Et c'est une autre espèce de bambou qui s'appelle Monso Chiku. C'est une espèce qui a été introduite au Japon à l'époque d'Edo. Donc, on peut dire qu'un film de samouraï qui a pour thème l'année 1500, dans lequel, si on utilise cette espèce, c'est truqué, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. La même espèce, Monso Chiku. Et ça, c'est une autre espèce qu'on appelle Nemahari Dake. Ce sont des bambous qui sont dans les régions où il y a beaucoup de neige. Donc ils sont tordus. Ils poussent sur les parois de montagne et avec le poids de neige, ils deviennent tordus. Mais d'une très bonne qualité. Et cette espèce s'appelle Kurochiku, le bambou noir, on l'appelle. Ça, c'est le dégraissage de Kurochiku. Donc ça, c'est une espèce qu'on appelle Madake, et on est en train de le sécher au soleil également, comme le Suzudake. C'est une ancienne maison en chaumière, une chaumière avec la structure en bambou qui sont attachées avec des cordes. Donc aujourd'hui, ce genre de construction n'est pas réalisable, on en voit de moins en moins. Donc, comme dans ces anciennes maisons traditionnelles japonaises, on avait ce genre de toit donc en chaumière avec la structure en bambou qui était attachée avec les cordes. Aujourd'hui, on voit toujours les traces de cordes au bout de ce tige. Attention, parce qu'il y a des suies à l'intérieur. Ne mettez pas vos doigts parce qu'ils vont être noircis. On l'a pas nettoyé. Donc, comme vous le savez, au Japon, dans ces anciennes maisons, on avait le foyer au milieu dans lequel on brûlait les bois et les suies montaient et s'incrustaient à l'intérieur. Donc, je vous ai présenté un peu la matière première. Je vais maintenant présenter une œuvre de maître Rikyu, Senno Rikyu en bambou, et du grand maître aussi, Shounsai. Donc, ce vase qui a été fait par le maître Rikyu en 1590 utilisait des bambous qui sont dans la région d'Izu, dans les montagnes de Mnilayama. Après la mort de maître Rikyu, les fidèles ont essayé de reproduire, puisque c'était la représentation même de leur maître. Donc ces reproductions sont conservées très précieusement, ils sont désignés patrimoine culturel important. Ceci est un vase de maître Shono Shounsai, je crois qu'il est dans l'exposition. Donc Shono Shounsai a voulu rivaliser Iizuka Ronkansai avec ce vase. Donc c'est aussi un autre vase de Shono Shounsai et lorsque j'ai commencé à faire mes productions, j'ai reproduit ce vase pour connaître un peu l'état d'esprit de maître Shounsai. Donc Shounsai a voulu rivaliser ses rivaux d'époque, Iizuka Ronkansai, Yanabetsu Kunsai, grâce à ce vase qui est très épuré. Il a lancé un défi en fait, avec ses lignes très épurées, avec un découpage en forme de bouche d'une ancienne masque de Nō. Donc ce vase de maître Rikyu, en fait, il a réalisé quand il accompagnait son shogun Toyotomi Hideyoshi à sa dernière bataille à Odawara. Donc il a trouvé ce bambou qui poussait juste à côté dans le bois de bambou dans la région d'Izu. Et il a demandé certainement à un agriculteur une aide pour couper ce bambou. Donc c'était en 1590, il a réalisé en dehors de ce vase un shakuhachi, donc une forme de flûte, une grande flûte japonaise, et c'est utilisé comme vase, donc pour récipient pour les fleurs, et c'est considéré comme un chef-d'œuvre encore aujourd'hui d'un maître de thé. Rikyu a utilisé en fait un bambou qui était juste à côté et qu'il a trouvé dans le bois. Il était même un peu pourri, mais Shounsai était beaucoup plus rigoureux dans les choix de ses matières premières, puisqu'il a planté lui-même les bambous, il a aménagé le bois de bambou, et ce vase ne peut être fait il peut faire qu'un ou deux vases à partir d'un grand tige de bambou, ce qui démontre un peu son exigence sur la matière première.
Donc
Tandis que Rikyu a demandé une aide à un agriculteur, où il a demandé peut-être de lui prêter une scie, Shonsai était différent dans sa façon de travailler, beaucoup plus différent. Pour réaliser cette œuvre, il a commandé une scie spéciale pour lui, le Shonsai. Les dents d'une scie traditionnelle, c'est comme ceci en haut. Pour couper un bambou de cette qualité, il a fallu une autre lame de scie, et on appelle ça Nezumiba. En fait, il a commandé cette scie spéciale pour qu'il n'ait plus rien à faire après la découpe. Donc, lorsqu'il a coupé un bambou, ça laisse des traces de scie, et c'était justement apprécié pour ces traces-là. Donc, il a voulu conserver la trace de scie. Avec une scie traditionnelle, on ne peut pas. Donc il faut bien voir la partie découpage, parce qu'on voit vraiment la trace de scie. Donc l'œuvre de Rikyu, Maître Rikyu, est considérée comme une œuvre conceptuelle, le son vase, et c'est très différent du style de Shōunsai. Le vase de Maître Rikyu, aujourd'hui, il est exposé à côté de l'œuvre de Marcel Duchamp dans le Musée national de Tokyo, Musée d'œuvre d'art national de Tokyo, puisqu'il est considéré au même niveau de conceptualité que les œuvres de Marcel Duchamp. Donc, tandis que l'œuvre de Shōunsai, on ne peut pas qualifier d'un conceptuel, puisqu'il a voulu vraiment rivaliser ses concurrents qu'avec la matière première. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif de ce sujet, et c'est vraiment une notion assez personnelle. Je vais vous présenter un peu ma notion très personnelle sur le bambou. Donc, ce que je dis souvent, c'est que les œuvres de bambou, c'est une construction très linéaire, qui sont constituées des lignes, et sont des œuvres très poétiques en même temps.
Donc,
une image de... Donc c'est tiré d'un récit de l'époque de Heian, le dit de Genji. C'est une des scènes de dit de Genji. Donc c'est au moment de la récolte, c'est en automne. Donc c'est une scène où ils célèbrent un peu l'automne, la reine Murasaki avec le prince Akashi et le prince Genji sont en train de boire un saké un soir d'automne. Et ce qui est intéressant, c'est que la scène de ces trois personnages occupe la moitié et l'autre moitié occupée uniquement par des herbes, des fleurs et des herbes d'automne. Donc on voit bien l'importance de ces végétaux au même titre que les personnages. Donc on voit les graminées, on voit les Ominaeshi sous espèce de graminées, et les lignes de ces végétaux représentent bien l'état d'esprit de ces personnages, très implicitement, mais c'est en fait la représentation de leur état psychologique d'automne. Donc uniquement avec cette ligne courbée, on représente l'état d'esprit, l'état psychologique de ces personnages, surtout de Murasaki, la reine Murasaki, qui vivait un moment très difficile. Ce n'est pas que esthétique. C'est pas dans le but esthétique. Donc c'est une peinture de Sakai Hōitsu à côté des fleurs d'été. Il a peint aussi la scène d'automne et avec ses lignes courbées, il représente la mélancolie de l'automne, le cœur qui balance. On entend presque les grillons, le son de grillons ou de vent. Donc c'est une de mes œuvres préférées. Ça a été réalisé pour conserver les dépouilles des samouraïs. Donc on voit sur ce pot toujours les herbes d'automne pour désigner un peu la mélancolie. Ça rappelle aussi le champ qu'il a parcouru dans les batailles. Donc, taquet, les œuvres de bambou, en fait, je dis que ce sont des constructions, des lignes courbées ou droites, mais en fait, ce ne sont que des lignes. Donc, il y a des lignes très droites. Donc, au début, maître Chikunsai réalisait des œuvres très droites, avec des lignes très très droites. Il n'a pas voulu changer son style, il a toujours voulu lancer le défi en n'utilisant que des lignes droites. Donc, par rapport à la ligne courbée, la ligne droite démontre bien sa volonté, son attachement à la matière première et de dire qu'il ne va pas dévier son style, il va rester sur son style très droit. Je m'attarde un peu sur cette histoire de ligne de bambou, mais c'est important. C'est un recueil de poèmes Konki Wakashu. Et avant ce recueil, il y a eu aussi 50 ans auparavant, il y a eu un recueil qui s'appelle Koyabire. Donc Hiragana, qui est une écriture phonétique. Donc Hiragana, c'est une écriture phonétique des caractères chinois qu'on a inventé à l'époque. Et les traces d'écriture sont très appréciées puisque ça a un esthétisme. La lettre en elle-même seule, elle ne peut pas représenter cette beauté, mais lorsqu'on en fait un texte, c'est là qu'on voit la beauté de ces lignes. Donc on appelle ça l'emmen, la beauté de ces lettres, trois ou quatre lettres en continu. Et on continue. Donc on y trouve la même beauté qu'on ressent lorsqu'on voit les lignes courbées, mais ce n'est pas que esthétique, encore une fois. Donc c'est ça, on imagine toujours la nostalgie, l'état d'âme des personnages de l'époque, le mouvement des vents et aussi le son des insectes d'automne. Donc,
秋にはなってないんです。でもちょっとした風で秋を感じるという、もう日本人のなんじゃないかなという歌がここに書かれています。
Et donc c'est un poème qui représente, qui a été écrit le 1er juillet dans l'ancien calendrier. Donc dans l'ancien calendrier, ce n'est pas encore tout à fait l'automne, mais on ressent un vent subtil qui nous laisse imaginer l'arrivée de l'automne. Et c'est le moment, je pense, préféré de tous les Japonais. C'est la saison la plus préférée des Japonais. On ressent un brin de nostalgie de l'automne. Il dit, le poème dit, on ne voit pas tout à fait l'arrivée de l'automne, mais on capte le vent qui nous amène l'automne. Donc c'est une calligraphie de Otawaki Rengetsu, qui a vécu entre 1800 et 1900. Et c'est aussi le style Renmen de l'écriture. Otawaki Rengetsu était un artiste très complet, puisqu'il était en même temps poète et calligraphe et maître potier. Et céramiste, donc il est encore très très populaire. Ceci est une œuvre de Shōunsai, le titre de l'œuvre est Gyōgyōshi. Donc il représente pour moi les arbres, les roseaux qui bougent au bord de rivière, et ça rejoint un peu ce que j'ai ressenti lorsque j'ai regardé les autres œuvres de calligraphie. C'est tout en mouvement, alors que ce sont des lignes droites. Ça, c'est une autre œuvre de Shōunsai, une petite éventail qu'on utilise à la cérémonie du thé. On voit les vagues. Qui rappelle le poème de Jean Cocteau qu'on apprend tous les Japonais à l'école primaire grâce à la traduction d'un académiste Horiguchi Daigaku qui l'a traduit, et c'est très connu par les Japonais. Donc lorsque je vois les vagues sur l'éventail de Shōunsai, ça me rappelle toujours ce poème. Donc le Horiguchi Daigaku a traduit le poème de Jean Cocteau dans la façon qui est très appréciable par les Japonais, puisque nous avons un format spécifique de poème qui se constitue en 7 lettres au début et 5. Toujours 7 et 5. Donc c'est très, ça rime très naturellement dans les oreilles des Japonais.
この項のまとめですけども、竹工芸って精巧にできてるから素敵だとか、綺麗ねだとか、形がいいねとか、それだけじゃないんです。
Donc, ce que je voulais dire par tout ça, c'est que les œuvres de taquet, on n'apprécie pas non seulement pour sa beauté extérieure, sa forme, sa minutie, son côté minutieux, mais il y a autre chose. Donc, on doit apprécier aussi par son ingéniosité en ligne, structure linéaire, et aussi par sa poésie. On n'en trouve pas autant de poésie, je pense, dans d'autres formes d'art. Et si on dit que c'est beau, c'est esthétique, c'est minutieux, et qu'on s'arrête là, c'est trop triste pour moi. Donc c'est ce que je voulais dire en venant à Paris jusqu'ici aujourd'hui, c'est de dire que ce que je voulais dire, c'est que la beauté ne s'arrête pas à la beauté extérieure. On doit aussi évoquer sa beauté intérieure, sa structure et sa poésie. Donc c'est mon œuvre dans laquelle j'ai voulu exprimer donc ces deux formes de beauté. Ensuite, je vais vous présenter le processus de fabrication avec les images donc, qui sont faites dans mon atelier. Donc ça, c'est mon œuvre aussi, que j'ai appelée Kazegaki. C'est une photo donc, qui a été prise dans le nord du Japon, la péninsule de Noto, où il y a le vent glacial qui souffle très fort. Donc, pour se protéger de ces vents, les villages sont entourés de ces haies de bambou qu'on appelle magaki. Donc, je me suis inspirée de cette haie pour représenter qu'à l'intérieur de cette protection, il y a une vie très paisible, très heureuse. Je vais vous montrer maintenant comment on fend le bambou. Et en fait, j'ai réalisé ceci dans ma salle de bain, dans ma chambre d'hôtel hier soir. Ça aurait été bien de vous montrer depuis le début, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps.
これがもうこれでこう振り
Comme je manquais d'espace aussi. Je vous montre que la finition, en fait. Donc, je vais montrer comment je fends les bambous et je vais montrer la finition. Comme je prenais l'avion et que je ne pouvais pas emmener des couteaux en métal, je le fais avec un couteau en bambou. C'est une technique de fente en chrysanthème, on appelle ça. Normalement, c'est en métal, donc cette partie est en métal. On fait le motif qu'on veut à la fin. Et on introduit à l'intérieur, et lorsque j'appuie dessus, ça fend en nombre que je désirais. Mais aujourd'hui, je vais le fendre en quatre. Fendu en quatre. Mais bon, les paysagistes professionnels les font beaucoup plus détaillés. On peut fendre plus finement. On met la partie extérieure vers le bas. On a fondu d'abord et après on désépaissit. Plus fine. Voici à peu près comme je travaille pour fendre, pour désépaissir.
これは鈴だけなんですね。鈴だけを使って籠を編んでいる年配の女性と小学校3年生の女の子の心温まる籠作りを通してのお話なんです。
J'ai aussi avec moi un livre pour les enfants. C'est une histoire qui se passe dans le nord du Japon. Il y a une vieille artisane de bambou qui fabrique les paniers. Et il y a une petite fille d'école primaire qui sympathise avec cette dame qui tisse un lien assez incroyable entre les deux. Dans cette histoire, donc cette dame d'un âge offre une de ses œuvres à cette petite fille qui est en classe CM2. Et c'est une jolie histoire d'échange intergénérationnel. Je ferai dans la limite de temps ce que je peux faire dans la limite de temps. Je suis issu du département de Kanagawa, donc pas loin de Tokyo. Donc, il fallait que je prenne le bus à 5h10 le matin pour aller à l'aéroport et j'ai voulu travailler jusqu'au dernier moment pour couper, pour préparer ces fines lamelles de bambou. C'est la première fois que je réalise ce genre de panier. Première expérience. Ça m'est jamais arrivé à l'idée de créer ce genre de panier. Donc, comme c'était la première expérience, quand j'ai commencé à fabriquer dans la salle de bain, j'avais un grand espoir de la d'œuvre. Fini. Pour les artistes, c'est important d'avoir cet espoir à la fin, parce que même s'il s'agit d'une œuvre très simple, si on n'a pas l'espoir, on ne peut pas fabriquer, on ne peut pas le créer. Et je ne m'attendais pas à créer cette forme-là au début. Merci beaucoup.
Je voudrais remercier Maître Uematsu au nom du musée du Quai Branly. La pièce que vous voyez là est celle qu'il a réalisée en commande du musée pour l'exposition qui est présentée dans Fendre l'air. Monsieur Uematsu, en général, réalise une œuvre par an, parfois deux. Donc l'exercice auquel il s'est livré aujourd'hui, c'est vraiment un exercice très, très nouveau pour lui. C'est la première fois qu'il se rend en Europe. Je crois que c'est aussi une des premières fois où il quitte le Japon. Comme vous l'avez vu, c'est un artiste qui trouve son inspiration dans une réflexion à la fois très, très poétique, proche de la nature, et aussi pleine de spiritualité. Il y a dans la salle quelques-uns des grands maîtres du bambou japonais qui ont voulu venir le voir travailler. C'est extrêmement rare qu'on ait l'occasion de le voir travailler. Il vit dans un petit atelier de façon très, très discrète. Et c'est vraiment un grand privilège pour nous que d'avoir pu l'accueillir à Paris en le remerciant d'avoir traversé la moitié du monde pour nous et aussi d'avoir offert cette œuvre remarquable aux collections nationales et puis de nous avoir donné la chance d'en apprendre plus sur l'art du Take Kogei. Merci beaucoup. Merci infiniment.